continuer tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Ibrahim Bayili.
Procès, appel à incendier le palais du Moro Naba. Marcel Tankouano reconnaît coupable des faits qui lui sont reprochés et écope de 4 ans de prison ferme et de 5 millions d'amende. Alain Traoré, Diallé, Alain, Loukman, Sawadogo, Boukaré Konombe remis à leur famille. La corporation de l'Association nationale des étudiants burkinabés à Neb et la délégation générale élue de l'UFR-SVT veut prendre l'opinion publique à témoin face aux différentes difficultés que vivent les étudiants de cette affaire. Et puis 24 officiers des sapeurs-pompiers prêts à servir, ils ont reçu leur parchemin ce vendredi. Voici pour le sommaire le développement dans un instant. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le verdict du procès Marcel Tankouano et autres dans l'affaire appel à incendier le palais du Moro Naba est connu depuis ce matin. Les peines retenues contre les prévenus vont de 6 mois à 4 ans de prison. Les deux journalistes, à savoir Loukman Sawadogo et Alain Alain, sont relaxés au bénéfice du doute et sont désormais libres de leur mouvement à la satisfaction de leur conseil. Marcel Tankouano, présumé cerveau, écope de 4 ans de prison ferme, la plus grande peine. Les détails avec Ibrahim Niaouné et Abdulaziz Oulabou.
4 ans de prison et 5 millions de francs CFA d'amende, le tout ferme, c'est la peine retenue contre Marcel Tankouano. Il était présenté comme le cerveau dans cette affaire. 30 mois de prison ferme sont retenus contre Abdoulkarim Baguian, Dilota et Pascal Zaïda, et 18 mois ferme pour Désiré Ginko. Autre condamné dans cette affaire, il s'agit de Boukari Tapsoba, qui écope de 24 mois de prison ferme, Karim Kone, condamné à 12 mois de prison ferme. La plus petite peine est prononcée contre le nommé Souleymane Belem, il s'agit de 6 mois de prison avec sursis. Parmi les 10 inculpés, 3 ont été relaxés au bénéfice du doute. Il s'agit de Boukari Konombo et les deux journalistes, Luc Sawadogo et Alain Traoré, dit Alain Alain. Une décision satisfaisante pour leur conseil. Mamadou Paré est un des avocats des journalistes.
Le tribunal a rendu une décision sage, mais une décision courageuse. Parce que vous connaissez l'environnement de ce dossier. Vous connaissez ce qui leur était reproché, c'est-à-dire l'incitation à attroupement et à aller brûler le palais du Moro Naba. C'est un dossier sensible. Et si un tribunal arrive à rendre une décision de relax contre certains prévenus, nous estimons, nous, avocats de M. Traoré Loukman, M. Sawadogo Loukman et Traoré Alain Alain, que c'est une décision courageuse.
Dès l'entame, le président du tribunal a précisé que les prévenus étaient poursuivis pour des faits d'appel à incendier le palais du Moro Naba et non pour atteinte à la sûreté de l'État. Après verdict rendu, il a été porté à la connaissance des condamnés qu'ils avaient 15 jours pour faire appel. La joie et la satisfaction se lisaient sur le visage de certains parents des condamnés venus leur assister.
Des opérateurs économiques de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire en audience chez le président de la transition. Le Conseil des opérateurs économiques burkinabé de Côte d'Ivoire a réaffirmé vendredi au président de la transition sa disponibilité à apporter sa contribution à un retour de la paix dans notre pays. Une délégation du Conseil, conduite par son président Madi Ouedraogo, a échangé ce 7 juillet avec le chef de l'État sur le développement et la situation sécuritaire du pays. A annoncé le service de communication de la présidence du Faso. La mère patrie est en danger et tout le monde est à son chevet, a signifié Madi Ouedraogo à sa sortie d'audience. Lui et sa délégation sont donc venus s'imprégner des réalités et s'armer pour voir comment apporter leur contribution de manière concrète. Le président de la transition a, selon le compte-rendu de l'audience, expliqué à ses opérateurs économiques comment s'y prendre pour apporter leur contribution à la construction de la nation. Désormais, 24 officiers des sapeurs-pompiers dans leur fonction de protection civile. En effet, ce vendredi, à l'Institut supérieur d'études et de protection civile, ISPEC, s'est tenue la cérémonie officielle de la sortie de la 11e promotion. Les nouveaux sapeurs-pompiers de la promotion de l'École nationale des sapeurs-pompiers ont reçu solennellement leur parchemin des mains de la hiérarchie militaire. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, Momouni Tamboura.
Ils sont 24 soldats de feu, dont deux femmes, à recevoir leur parchemin de fin de formation. Sur le rythme de l'hymne national, en présence des autorités militaires et administratives, cette nouvelle promotion, après 5 mois de formation en sécurisme, en sauvetage, en extinction des incendies, en prévention et dans bien d'autres disciplines, venues de 13 nationalités d'Afrique, sont désormais prêtes à servir dans la protection des civils et de leurs biens. A laissé entendre le délégué de la promotion Samba Agui du Sénégal. Lui et Hensoir Abezandri du Madagascar se réjouissent de la qualité de la formation.
Je pense que tout n'a pas été difficile, dans la mesure où nous avons quand même un cadre qui était favorable et toutes les conditions étaient réunies pour un bon apprentissage avec une équipe pédagogique très compétente, très engagée et particulièrement passionnée par le métier de sapeur-pompier. Donc comme on dit, on a le sentiment quand même d'un devoir accompli.
Donc personnellement, moi en tant qu'officier féminin, donc, je n'ai ressenti aucune discrimination. Et discrimination pour les féminins et en même temps, on a su prouver que même en tant que femme, on peut bien faire le métier de sapeur-pompier.
Après avoir rendu hommage aux vaillantes forces de défense et de sécurité et d'exprimer son intérêt pour le retour de la paix au Burkina, Haiker Barou, directeur du cours de la formation initiale des officiers session 2023, a félicité la 11e promotion pour son dynamisme.
Parce que dès les premiers jours, on avait des officiers qui ne connaissaient quasiment rien du métier des sapeurs-pompiers. Donc il a fallu qu'ils passent par une période d'apprentissage qui était parfois difficile. Pour d'autres, c'était assez plus facile parce qu'ils n'ont pas le même niveau à la base, que ce soit sur le plan physique ou intellectuel. Mais au final, comme on a pu le voir, ils ont eu un 100%. Donc pour ma part, en tant que directeur, je suis plus que satisfait de leurs résultats.
La cérémonie a aussi servi d'occasion pour le baptême de la place d'Arme Silas Keita, du nom du premier général de sapeurs-pompiers, et à l'inauguration de la salle de sport Célestin Tapsoba, officier de la 3e promotion qui a perdu la vie pendant la formation.
La corporation de l'Association nationale des étudiants burkinabés ANEB et la délégation générale élue de l'UFR SVT veut prendre l'opinion publique à témoin face aux différentes difficultés que vivent les étudiants de cette affaire. C'est ce qu'ils ont déclaré ce vendredi 7 juillet lors d'une conférence de presse à Ouagadougou dans un contexte universitaire difficile, insiste-t-il, suite à des audiences avec la direction de l'UFR sur la situation des Master 1. Les étudiants estiment que l'administration ne se soucie point de leurs différentes préoccupations. On en sait plus avec Fawzia Zongo.
Les étudiants de l'université Joseph Kizerbo font face à plusieurs formes de violence, à en croire les organisateurs de la présente conférence. La corporation ANEB de l'UFR SVT compte poursuivre sa lutte afin de défendre leurs droits face à la manipulation du nouveau régime administratif. Mamadou Sanou est le délégué général de la corporation ANEB de l'UFR SVT.
Sur la question spécifique du master, l'administration joue sur le temps pour décourager les étudiants. La présidente de l'université Joseph Kizerbo ira plus loin en disant que les devoirs non faits pour faire des grèves sont considérés comme faits. Il surfera sur leur argument fétiche, notamment que les étudiants sont violents pour proférer des menaces et des intimidations. Sur cet argument de violence, la communauté universitaire est témoin que ce sont les étudiants qui sont victimes de toutes sortes de violences physiques, verbales, psychologiques et morales. En effet, en plus de faire venir la police pour taper les étudiants, certains membres de l'administration, comme le directeur adjoint, se promènent partout pour dire à qui veut l'attendre qu'ils vont chasser tous les étudiants de Master 1 de l'UFR.
En vue de poursuivre la lutte, la corporation ANEB de l'UFR avait réuni les étudiants en une assemblée générale extraordinaire le 5 juillet dernier pour discuter de leur situation. De nouvelles décisions sont prises pour se faire entendre. Mamadou Sanou.
Les étudiants de l'UFR SVT ont décidé d'aller en grève de 120 heures. Le mardi 11 juillet, mercredi 12 juillet, jeudi 13 juillet, vendredi 14 juillet et samedi 15 juillet. Il s'agira pour nous, les étudiants, de l'UFR au cours de ces 120 heures de grève, de montrer à l'opinion publique que rien ne va à l'UFR et que les autorités de notre UFR et de la présidence planifient le renvoi de la promotion de Master 1 qui qui compte plus de 500 étudiants de l'UFR, de dénoncer le comportement de mépris et d'insouciance vis-à-vis des revendications des étudiants.
Les étudiants en Assemblée générale du 2 mars dernier avaient décidé du blocage des évaluations des Master 1 afin d'inviter l'administration à répondre à leurs préoccupations. En réponse, l'administration de l'UFR SVT a encouragé les étudiants à user de la violence en faisant appel à la police les 13 et 14 avril dernier au sein de l'université.
Droit à l'éducation au Burkina, c'est autour de cette problématique que le RANCOF, le Réseau National des Consommateurs du Faso, a organisé un panel. Cette activité vise à contrôler et plafonner les frais de scolarité au Burkina. Trois figures du milieu éducatif burkinabé ont animé ce panel. Il s'agit de Souleymane Badiel, secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Dr Nestorine Sangaré et le professeur Al-Kassoum Maïga, tous deux anciens ministres. Le panel a eu lieu hier jeudi, 6 juillet, à l'Université Joseph Kizerbo, devant Solomon Nikema.
Le RANCOF, le Réseau National des Consommateurs du Faso, interpelle ainsi le gouvernement sur les frais de scolarité qui évoluent chaque année scolaire. Pour cela, Souleymane Badiel, Dr Nestorine Sangaré et le professeur Al-Kassoum Maïga ont passé au peigne fin les difficultés qui minent le secteur éducatif dans le pays. Le RANCOF entend mener des actions pour améliorer le système éducatif au Faso. Abdoul Fattah Obagagné est le vice-président du RANCOF.
L'équipe de ce panel, ça a arrivé à plafonner les frais de scolarité, avoir une éducation de qualité à travers au respect des frais APE dans le public et dans le privé.
Le RANCOF souhaite supprimer les frais de l'APE, l'Association des parents d'élèves. Le professeur Al-Kassoum Maïga, panéliste, se réjouit de l'importance portée autour de l'éducation par le RANCOF. Professeur Al-Kassoum Maïga, panéliste.
Je pense qu'ils ont eu le bon réflexe de demander aujourd'hui qu'on fasse le point et pour pouvoir certainement faire des démarches et du lobbying pour interpeller l'État par rapport à quelque chose qui a été déjà pris comme engagement par l'État lui-même en disant que c'est un droit, c'est une obligation, il y a le principe de gratuité. Parce que quoi qu'on dise, l'éducation reste le principal moteur du développement.
Ce panel s'est tenu sous le thème « Droit à l'éducation au Burkina, réalité ou relativité ». Les panélistes notent entre autres difficultés le manque des infrastructures scolaires, le nombre pléthorique d'enfants dans les salles de classe et les conditions de travail difficiles du personnel enseignant.
Digitaliser le cadastre au Burkina est le souhait du gouvernement. La Direction générale des impôts DGI ne veut pas rester en marge de cette évolution technologique sur l'utilisation des nouvelles technologies du positionnement terrestre. À cet effet, 30 de ses agents ont reçu une formation dans ce sens pendant 2 semaines. La formation a été assurée par des techniciens de la direction de l'Institut de géographie du Burkina IGF, IGB. La cérémonie de remise des attestations a eu lieu ce vendredi 7 juillet à Ouagadougou, compte rendu Solomon Nikema.
30 agents de la DGI, la Direction générale des impôts, ont été outillés sur l'utilisation des nouvelles technologies du positionnement terrestre. Cette formation vise à renforcer les capacités de ces agents à l'utilisation des récepteurs du système global de navigation pour des opérations de levée topographique et d'implantation pour la mise à jour et le géoréférencement des plans cadastraux. Daouda Kirakoya est le directeur général des impôts.
À l'issue de cette formation, nous attendons à ce qu'on puisse avancer davantage dans le processus de digitalisation du cadastre parce que nous devons avoir des plans fiables et nous devons également faire en sorte que tout ce qu'il y a comme cartographie au niveau national et ce qui est des références au niveau des propriétés, nous puissions avoir des documents fiables.
Ces agents ont été outillés sur 5 modules. Cela permettra d'avoir un plan cadastral fiable, à en croire le directeur général de l'Institut géographique du Burkina, Alidou Nagabila.
Il est très intéressant parce qu'il permet d'avoir donc de façon continue l'espace national en un seul tenant. contrairement donc à ce qui était utilisé avant où l'espace national était divisé donc en deux tenants. Donc on a donc c'est une grande avancée sur le plan donc technique et qui va permettre donc de suivre tout ce qui se passe donc sur l'espace national.
La tenue de cette formation est saluée par les participants, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Direction générale des impôts et la Suisse.
Situation tendue à Sfax en Tunisie, la police effectue régulièrement des contrôles pour éviter que la situation ne dégénère davantage. La quasi-totalité des Burkinabés vivant dans cette ville de l'est de la Tunisie se porte bien, selon un Burkinabé joint sur place. Tout serait parti de la mort d'un Tunisien poignardé le 3 juillet dernier lors d'une altercation avec des migrants noirs africains à Sfax. Rachid Côté, Burkinabé vivant à Tunis, nous relate un peu les faits. Il a été joint par Astrid Nikema.
La Tunisie a toujours accueilli des migrants, même illégaux, qui ont toujours vécu, je dirais, en petite cohésion avec la population tunisienne. Sauf que depuis quelques mois, il y a une entrée massive voilà, de ces migrants-là qui souhaitent rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Et ça cause des troubles parce que, bon, quoi qu'il en soit, ils sont étrangers noirs. Donc quand ils se regroupent tous, déjà qu'ils ne travaillent pas, ils ne font pas grand-chose, ils se retrouvent tous par milliers dans les quartiers, ça crée des troubles, ça crée des tensions. Eux-mêmes, entre eux, ils s'agressent, ils se braquent et tout. Ça crée une atmosphère d'insécurité, en fait, au sein de la communauté tunisienne. Kriller Handball, il y a eu des échauffourées il y a deux jours, et puis il y a un Tunisien qui est décédé. On ne peut pas vraiment dire que c'est dû à l'agression d'un subsaharien ou pas. Mais bon, on dit que c'est un subsaharien, qu'il y en a deux ou trois qui ont été arrêtés. Bon, ça crée en tout cas un ras-le-bol des Tunisiens qui demandent à ce que l'État puisse expulser tous les ces migrants illégaux, il faut bien le préciser, de la ville de Sfax, et qu'ils puissent rétablir l'ordre.
Quelle est alors la situation de nos compatriotes en général dans le pays? La réponse avec Rachid Côté.
Alors, la situation des Burkinabés, vous savez, quand on dit Burkinabé, il faut spécifier aussi parce que tout le monde n'a pas le même statut ici. Donc, les Burkinabés en général se portent bien. Ceux qui sont dans la capitale, les travailleurs, les membres de l'ambassade, les étudiants, tout le monde va bien. Voilà. Donc, ce qui se voit à la télé, voilà, c'est plus les migrants illégaux, ceux qui passent par le désert de Libye, depuis le Niger ou depuis la Côte d'Ivoire, qui traversent la Libye et qui entrent sur le territoire tunisien dans l'espoir de rejoindre les côtes italiennes à partir de la ville qui est la ville de Sfax. Donc dans ce lot de migrants-là, c'est certes, il y a des Burkinabés, mais on ne peut pas les déceler, on ne peut pas spécifiquement dire il y en a combien, parce que tout le monde, en fait, entre eux, ils sont mélangés. Il y a des Ivoiriens, il y a des Sierra Leonais, il y a des Ghanéens, il y a des Nigériens, il y a des tout, en fait. Voilà. Donc, bon, c'est pas des gens aussi qui sont recensés, que ce soit par les autorités burkinabées ou par les autorités tunisiennes. Parce que bon, ça n'incombe pas en fait à la diplomatie burkinabée ici.
Il y a eu des arrestations et certains migrants sont sous la protection de la police car selon notre interlocuteur, des Tunisiens voulaient les déloger par la force. D'autres ont été déportés dans le désert, a-t-on appris. L'ONG Médecins sans frontières réclame vendredi la reprise immédiate de la distribution de l'aide alimentaire en Éthiopie, suspendue depuis juin car massivement détournée, constatant des niveaux alarmants de malnutrition dans le pays. En raison de conflits et violences dans plusieurs régions du pays et d'une longue sécheresse dans la Corne de l'Afrique, plus de 20 millions de personnes en Éthiopie, soit 16% des quelques 120 millions d'habitants, dépendent fortement de l'aide alimentaire, particulièrement les réfugiés et les déplacés, rappelle l'ONG. Le gouvernement américain et le Programme alimentaire mondial PAM de l'ONU ont suspendu début mai leur aide alimentaire à la région septentrionale du Tigré, ravagée par 2 ans de guerre, avant d'étendre cette décision à l'ensemble de l'Éthiopie en raison de détournements généralisés et coordonnés.
La revue de presse.
L'actualité nationale est marquée par le retour au bercail de plus de 400 pèlerins de la Mecque. Les quotidiens de ce mercredi en parlent en chœur. D'autres sujets abordés par les confrères, l'intervention des agents de la santé publique dans le privé ont désormais 8 heures pour intervenir dans le privé. Voici la revue de presse que nous signe Alice Fideline Kagoné.
Nous commençons ce tour d'horizon de l'actualité nationale par le retour au bercail dans la nuit du mercredi 6 juillet 2023 de plus de 400 pèlerins. Heureux comme un ladji qui vient de rentrer de la Mecque, titre l'Obs à sa une. Même son de cloche en manchette du journal Le Pays qui affiche le retour de 430 pèlerins au bercail. Intervention des agents de santé publique dans le privé. Le gouvernement veut mettre de l'ordre. Le quotidien donne sa pensée. Quelle que soit la formation sanitaire choisie, il n'est pas rare de constater que nombre des praticiens de la santé exercent concomitamment dans le public et dans le privé. On a même parfois l'impression que ceux-ci préfèrent exercer dans le privé où ils sont parfois mieux rémunérés. Le hic, c'est que cela pose un problème. Tout le monde n'a pas les moyens de se soigner dans une formation sanitaire privée. Le confrère termine en saluant la décision du gouvernement tout en restant sceptique. Il faudra que le gouvernement s'investisse pour l'application effective de cette décision, car rien ne garantit qu'elle passera comme une lettre à la poste. Dans la même veine, l'Express du Faso renchérit en ces termes. Vous avez désormais 8 heures par semaine. Les agents publics de santé ne peuvent intervenir que 8 heures par semaine dans le privé, soit en une journée, soit en deux demi-journées. La décision émane du Conseil des ministres du mercredi 6 juillet 2023. On termine ce tour d'horizon par le 62e sommet des chefs d'État de la CEDEAO de Bissau. Travaux pratiques sur 3 transitions kaki. Les transitions politiques militaires seront au cœur des travaux. En Guinée, celle tractée par le colonel Mamadi Doumbouya avance à pas de caméléon, mais avance tout de même. La Guinée a l'avantage d'être en paix. Comprendre, le terrorisme n'y est pas et c'est un gros avantage, car il ne reste plus que les problèmes politiques. Ce qui n'est pas le cas au Mali, dirigé par des militaires dans ce pays. Le nord et le centre sont sous la férule des djihadistes qui eux combattent les FAMA et Wagner. Le référendum constitutionnel adopté le 18 juin dernier ouvre la voie à un retour à un état de droit. Le Mali avance également vers la finalité de toute la transition, mettre fin à son existence. L'équation principale et principielle demeurant si Assimi Goïta sera partant ou voudrait-il ajouter les ATT de mais avec qui dans le rôle d'Alpha Omar Konaré. Le Burkina, qui fait mutatis mutandis, suit le chemin du Mali et veut aussi une nouvelle loi fondamentale. Et selon l'agenda remis à la CEDEAO, des élections sont prévues pour juillet 2024 au plus tard. Mais dans le contexte sécuritaire, inhibe cette perspective. Et lorsqu'on entend les autorités dire que si la guerre finit, même dans un mois, on organisera ces élections, il faut se dire que les élections sont corrélées à la fin de cette bataille contre les terroristes. Le timing de juillet 2024 sera-t-il tenu? S'interroge enfin aujourd'hui au Faso.
C'est la fin de ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. Je suis Ibrahim Bailly. Merci de nous avoir suivis.
Radio Omega, l'info en direct.
Vous voulez mieux communiquer pour booster vos affaires? Ne cherchez plus. La radio numéro 1 au Faso, mais à